on a un petit problème, et là c'est même en dehors du changement climatique, qui est, on a beaucoup d'usages qui ont évolué, et on est beaucoup, et on a oublié que la quantité d'eau elle était pas illimitée et qu'elle était saisonnière. Et en plus, vu qu'on se développe, et ben on modifie le cycle de l'eau, et il y a des réservoirs qui ne se remplissent plus aussi bien qu'avant, et pourtant c'est des réservoirs dont on a besoin. Pour moi, le sol, c'est central. C'est le réservoir central pour nous, humains, on va dire. Quand on a un sol qui peut stocker l'eau, sans parler des nappes, hein, bah on a moins besoin de l'arroser. Donc si on fait pousser des choses dessus, si l'agriculture l'utilise, l'agriculture, c'est très important, hein, c'est ce qui permet de nous nourrir quand même. Et ben, derrière, un sol en bonne santé et qui est capable de retenir de l'eau, c'est un sol qu'il va falloir moins arroser l'été. Et attention, faut pas se dire « Ah ouais, 5000 litres d'eau d'empreinte eau, c'est... » Enfin, par jour, hein. Et par personne, c'est énorme. Du coup, je vais faire vachement d'efforts là-dessus et je m'en fiche de l'eau de ma douche qui représente, 70 litres par jour, j'en sais rien. Non, parce que c'est de l'eau locale. Du coup, quand on fait des efforts sur l'eau à la maison, que ce soit au jardin, dans la douche, dans les WC, etc., et ben, on préserve les nappes qui sont autour de nous et dont on a besoin pour nos usages locaux. Et quand on fait des efforts sur toute notre consommation, que ce soit l'alimentation ou que ce soit l'habillement, etc., etc., c'est plutôt un effort en termes de gestion de l'eau mondiale, entre guillemets, et répartition de l'eau mondiale. Et bonus, généralement, ça a des bons impacts aussi sur les gaz à effet de serre.
% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis Chloé, je suis ingénieure, curieuse et multipassionnée de tout ce qui touche au vivant. J'ai donc décidé de créer un nouveau métier, vivantologue. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de ces humains badass qui, par passion et ou par profession, protègent ce précieux vivant, le vivant en soi et le vivant sur cette planète. Ils nous aideront à comprendre les grands enjeux actuels, nous donneront des clés d'action et surtout l'envie d'avoir envie. Si un peu. Et surtout l'envie de nous engager nous aussi en faveur de la construction d'une nouvelle société plus vivante et vibrante, car nous avons tous un rôle à jouer. Bonne écoute. L'eau et moi, c'est une sacrée histoire. Déjà, je suis scorpion et aussi contre-intuitif que cela puisse être, c'est un signe d'eau. L'eau, c'est mon élément. C'est sous l'eau chaude que j'ai mes plus belles idées et que je capte le plus facilement mon intuition. Si on pouvait faire des réunions dans des bains d'eau chaude, je serais la reine du brainstorming. L'eau me réveille le matin et m'apaise le soir. L'eau me connecte à mon corps après des journées de travail perchées dans ma tête. Les bains frais me rechargent en énergie. Et je sais que le jour où je deviens vraiment folle, c'est l'océan qui me soignera. Mon conjoint est prévenu. Quand je pars en randonnée, j'ai toujours de l'eau sur moi. Je peux porter les gourdes de tout le groupe, ça ne me gêne pas. Je préfère être chargée comme une mule que de risquer de manquer. Qui m'a légué cette peur de manquer d'eau, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'eau et moi, oui, c'est une sacrée histoire. Et m'imaginer en manquer, c'est ce qui me terrifie le plus. Alors, en octobre dernier, après un énième été de sécheresse et de canicule, après avoir vu les robinets de Mayotte sans eau, les rivières de nos territoires à sec, les camions citernes qui réapprovisionnent nos villages du sud, alors qu'on nous annonçait que la deuxième limite planétaire liée à l'eau venait d'être dépassée et que les méga-bassines enflammaient le débat public, je me suis dit « non, impossible de ne pas comprendre ce qui se passe et de ne pas m'engager dans la protection de cette ressource inestimable liée à la vie qu'on appelle or bleu ». Ce 5 janvier dernier, je rencontrais Laurie Cailloué. Laurie, elle est hydrologue et elle a créé l'association Odyssée. C'est son profil LinkedIn qui m'avait plu et je l'avais sauvegardé il y a déjà bien des années en me disant qu'un jour je la rencontrerais. La chance a fait que nous avons un ami en commun qui nous a mis en relation et que nous habitons à 5 km l'une de l'autre, à deux pas de Villefranche-sur-Saône dans le Beaujolais. Laurie est une experte, on sent qu'elle maîtrise son sujet. Elle dit que toutes les solutions liées à l'eau sont connues et elle, j'ai bien envie de la croire. Elle dit aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, que tout se réfléchit en fonction du contexte local. Elle a cette vision d'ensemble, cette vision systémique si précieuse, à l'heure où l'on s'obstine parfois à trouver une technologie miracle qui s'appliquerait à tout et partout et qui nous enlèverait cette chance de devoir nous réinventer. J'espère que cet épisode vous aidera autant que moi à découvrir les enjeux de l'eau douce et vous donnera l'envie d'en savoir encore plus. Mais pour commencer, je laisse Laurie se présenter.
Laurie Cailloué, je suis dans le monde de l'eau depuis maintenant une bonne dizaine d'années, hein, le temps passe. J'ai toujours été attirée par l'eau. À la base, je voulais étudier l'eau sur Mars. Puis les études ont fait que finalement, je me suis dirigée vers l'eau douce, qui est quand même un domaine très intéressant. On ne s'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir sur le thème de l'eau douce. Et si je dois me présenter vite fait, j'ai fait une thèse sur le thème des sécheresses. Donc j'ai soutenu ma thèse en 2016 sur essayer d'étudier les sécheresses du siècle passé en France. C'était très intéressant puisqu'on parle beaucoup de sécheresse en ce moment, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de naturel et qui existe et qui est normal. Mais que la problématique qu'on a en ce moment est que ces sécheresses qui arrivaient moins souvent, moins longtemps ou qui étaient moins dures, maintenant sont de plus en plus intenses, de plus en plus longues, etc. Et puis après ma thèse, j'ai essayé de découvrir un peu d'autres domaines sur le thème de l'eau. On ne s'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir. J'ai fait un petit tour en agence de l'eau, donc plutôt sur le côté politique de l'eau, ce qui était très intéressant. J'ai travaillé sur un plan de bassin pour l'adaptation au changement climatique, notamment pour la Corse. Donc là, on est plus sur le terrain à voir aussi les besoins concrets, les attentes, les problématiques locales, etc. Par la suite, j'ai fait un petit tour à l'étranger, hein, parce que l'eau, c'est partout. Donc je suis allée quelques temps au Canada, en université. Toujours sur la recherche, là, je me suis plus intéressée à la prévision. Donc en fait, tout comme on a des prévisions météo par Météo France qui nous dit demain il va faire chaud, froid, il pleut, etc. On a aussi des prévisions de débit qui vont nous dire sur telle rivière, on va avoir telle quantité d'eau, sur telle durée, etc., etc. Et c'est un domaine qui est très important, que ce soit pour les États, puisque c'est notamment par là qu'on a le service de prévision des inondations, pour prévenir justement, alerter en cas d'inondation, faire des plans de secours, anticiper, etc. Mais également pour tout ce qui est production, par exemple, d'électricité. L'hydroélectricité, on a besoin de savoir ce qui va passer dans les cours d'eau dans les prochains jours pour ensuite optimiser la production d'électricité et évidemment anticiper en cas de gestion pour les crues. Et je suis rentrée en France, mais toujours pour continuer dans ce domaine de prévision. Donc je travaille actuellement à CNR, qui est justement un producteur d'électricité qui gère des barrages sur le Rhône. Et en parallèle de mon activité salariée, on va dire, j'ai monté une association qui s'appelle Odyssée. Parce que tous ces enjeux de l'eau, ils sont connus depuis très longtemps. On parle depuis longtemps, entre guillemets, de changement climatique. Mais les problèmes des sécheresses, des inondations, etc., c'est pas nouveau non plus. Et je trouvais ça dommage d'être dans un milieu avec une telle connaissance, mais que ça n'arrive pas jusqu'aux aux citoyens lambda, on va dire, et qui n'avaient pas justement conscience que on a des problèmes d'eau, même sans changement climatique. On a des problèmes d'eau en plus avec le changement climatique. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Comment ça arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça, il y a plein de solutions, ça existe, mais c'est pas encore très bien vulgarisé. Et c'était la vocation de l'association Odyssée, qui a maintenant 3 ans, de développer des ateliers et d'essayer d'animer pour expliquer au mieux et faire comprendre justement à toute personne qui est l'eau, c'est important, qu'il y a des problématiques et qu'il faut respecter cette ressource.
Quand nous avions échangé la première fois ensemble, je t'avais demandé s'il y avait des aspects liés à l'eau qui te semblaient importants d'aborder dans cet épisode. Et tu m'as répondu qu'il était important selon toi de réaliser que l'eau n'est pas qu'un sujet entre juin et octobre, que finalement on ne parle d'eau que quand il y a des problèmes et qu'on se questionne assez peu sur cette gestion pérenne de cette ressource qui est vitale, on le sait tous, et qu'on appelle même l'or bleu. Alors aujourd'hui, en ce mois de janvier 2024, alors que l'eau est plutôt abondante autour de nous aujourd'hui et depuis quelques mois, et c'est une bonne nouvelle. Rentrons dans le vif du sujet. Alors pour commencer, puis pour poser le contexte, peux-tu nous faire un petit rappel de SVT, je crois, de comment fonctionne le grand cycle de l'eau et aussi peut-être celui qu'on appelle le cycle de l'eau verte?
Oui, c'est vrai qu'on parle de l'eau en ce moment parce qu'il y a des inondations. Donc en fait, le cycle de l'eau, c'est quelque chose qu'on voit, c'est vrai, à l'école, même assez tôt, en primaire, il me semble. Mais qu'après, en tant qu'adulte, on oublie et on ne pratique pas du tout. Donc l'eau, en fait, c'est un cycle. Il faut savoir que la quantité d'eau sur Terre est toujours la même depuis le début de la vie sur Terre et qui est de l'eau sur Terre. C'est-à-dire que on ne perd pas d'eau, on n'en crée pas, ou alors quand on en crée, c'est vraiment dans des conditions minimes par rapport à toute l'eau qu'il y a sur Terre. Mais par contre, c'est qu'elle va se répartir différemment. C'est-à-dire qu'il y a des stocks d'eau, des réservoirs d'eau, qui sont différents. Par exemple, l'atmosphère, c'est un réservoir d'eau, c'est de l'eau sous forme de vapeur d'eau. Les glaciers, c'est un stock d'eau, c'est de l'eau solide. Le manteau neigeux, c'est pareil, la neige, c'est de l'eau solide. Après, il y a de l'eau liquide, donc dans les rivières, c'est un stock d'eau. L'océan, c'est un stock d'eau aussi, même si c'est de l'eau salée. Mais également dans les nappes souterraines, donc dans nos sols. Alors attention, quand on parle de nappes souterraines, on a attention à visualiser une cave, une grotte avec de l'eau ou une rivière, c'est pas le cas. Les nappes souterraines, en fait, c'est vraiment de l'eau dans tous les petits interstices du sol, dans les fissures, etc. Donc c'est pas du tout un lac souterrain, même si les lacs souterrains existent aussi. Et dans le sol, le sol c'est aussi un réservoir en eau. Que ce soit sur les premiers centimètres jusque des mètres en profondeur. Donc on a ces différents grands réservoirs d'eau. Alors c'est pour faire global, hein, parce qu'on peut aussi parler des zones humides, etc. Et après, on a des processus qui font que l'eau passe d'un réservoir à l'autre. Par exemple, un glacier, l'eau qui est dans un glacier, elle peut directement s'évaporer dans l'atmosphère avec la sublimation, par exemple. Et en fait, tous ces réservoirs sont connectés. Quand un glacier fond, on dit que c'est de la fusion, donc c'est quand l'eau en fait part du glacier, il fait chaud, il y a des conditions qui font que l'eau va fondre et va ensuite couler pour aller arriver derrière dans le sol, dans les rivières, etc. L'eau qui tombe sur le sol, par exemple, elle a deux possibilités. Soit le sol y permet d'infiltrer, et dans ce cas-là, l'eau elle va aller dans les premiers centimètres du sol, puis elle va potentiellement continuer jusqu'aux plusieurs mètres, etc., pour finir potentiellement dans des nappes ou des rivières. Mais des fois, il y a certains sols qui ne peuvent pas absorber, pour x ou y raison, hein, parce que c'est du béton, par exemple, donc ils ne peuvent pas absorber, ou parce qu'ils sont déjà saturés en eau. C'est ce qui se passe actuellement avec les inondations. Il y a des sols, ils ont déjà trop d'eau. Vous avez une éponge, par exemple, qui est pleine d'eau, vous avez beau mettre de l'eau dessus, elle ne va pas continuer à en absorber. Et dans ce cas-là, l'eau, elle va, ce qu'on appelle, ruisseler et ensuite aller dans les rivières. Tout ça ensuite va à l'océan, il y en a aussi une partie qui s'évapore et qui retourne dans l'atmosphère, donc ça s'évapore à la fois depuis les rivières, depuis les sols, depuis les lacs, depuis l'océan, etc. Et ensuite il pleut, donc c'est-à-dire que l'atmosphère se charge en humidité et ensuite il y a des conditions qui font que ça se réagrège sous forme d'eau liquide et ça tombe sur Terre. Donc ça c'est le grand cycle de l'eau. Donc c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs réservoirs d'eau à différents endroits et que cette eau, selon les conditions, elle passe d'un réservoir à l'autre et il y a plein de liens partout, hein, il n'y a pas qu'un seul chemin. Par exemple, une goutte d'eau peut mettre des années à atteindre une nappe, elle peut mettre 2500 ans à atteindre un océan en moyenne par exemple. Donc ça peut être très très long. Et notre problématique en ce moment, c'est pas tant qu'on a trop d'eau ou pas d'eau, c'est juste que l'eau, elle n'est pas répartie au bon endroit pour nous ni au bon moment. Et pour compléter ta question sur le cycle de l'eau verte, on parle d'eau verte notamment, l'eau bleue, c'est l'eau qui coule et qu'on voit dans les rivières, par exemple, les lacs, etc. L'eau verte, c'est un peu conceptuel parce que c'est l'eau qu'on voit pas. C'est l'eau qui est dans le sol, donc là, quand tu regardes le sol dehors, t'as pas l'impression de voir de l'eau, pourtant, il y a beaucoup d'eau dans ce sol. Et pour le coup, le cycle de l'eau, il se fait à différentes échelles. C'est-à-dire que t'as des grands processus de circulation au niveau de l'atmosphère, etc., qui font que t'as des masses d'air qui se déplacent, qui sont pleins d'eau, il va pleuvoir sur telle ou telle région du globe, etc., etc. Mais t'as aussi plein de processus locaux, dont par exemple le cycle de l'eau verte. Tu vas avoir des forêts qui vont évaporer de l'eau grâce aux végétaux. Et cette eau évaporée, peut-être un petit peu plus loin, elle va retomber sous forme de pluie localement. Et c'est ce qui va entretenir justement un petit cycle de l'eau local. Par exemple, en Amazonie, il y a des études, c'est une grande zone, hein, mais il y a des études qui ont montré que la déforestation a fait que les arbres n'évaporaient plus assez, enfin vu qu'il n'y avait plus d'arbres. Et du coup, derrière, on avait des grosses sécheresses parce qu'il ne pleuvait plus. Et ça, c'est parce qu'il n'y avait plus d'arbres. Donc en fait, le cycle de l'eau, c'est pas une seule échelle, ça se fait à la fois à l'échelle mondiale et à la fois aussi derrière à l'échelle locale.
Oui, je trouvais ça intéressant de le rappeler parce qu'en France, on a tellement l'habitude et la chance d'avoir de l'eau en ouvrant le robinet qu'on ne sait même plus trop d'où elle vient. En tout cas, c'était mon cas. Et du coup, de se rappeler que l'eau douce et l'eau potable en fait, sont puisées dans ces différentes réserves que sont les cours d'eau, comme tu disais, les nappes souterraines, les lacs. Et j'avais vu, pour prendre un exemple, que le lac d'Annecy fournissait 70% des besoins en eau du Grand Annecy. Voilà, on reparlera de comment on protège ces ressources en eau dans la deuxième partie, mais c'était intéressant pour moi de nous rappeler d'où vient cette eau potable et cette eau douce. Pendant la préparation de cet épisode, tu m'as dit que, et tu viens de le redire aussi, que même sans réchauffement climatique, nous aurions quand même aujourd'hui des problèmes avec la gestion d'eau. Peux-tu nous expliquer quels sont les défis actuels liés à la disponibilité de cette ressource et peut-être quels sont les défis que rajoute le réchauffement climatique planétaire ?
Oui. Alors, les défis actuels, il y en a plusieurs. Il y a une quantité d'eau qui est disponible et qui n'est pas infini. Premier défi. Par contre, on n'est pas le même nombre d'habitants sur Terre aujourd'hui qu'il y a 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans, etc. Donc ça veut dire qu'avec la même quantité d'eau, il faut pouvoir fournir de l'eau à plus de personnes. Premier défi. Deuxième défi, les usages. Aujourd'hui, on n'utilise pas la même quantité d'eau par personne ou même en termes collectifs, qu'il y a des années et des années. Par exemple, aujourd'hui, à la maison, en moyenne, on est à 150 litres par jour et par habitant. Mais il n'y a pas que la maison, hein, on a besoin d'eau pour tout. Hein. On a besoin d'eau pour l'agriculture, on a besoin d'eau pour faire tourner toutes les industries. Hein. Pas que pour concevoir des produits, mais pour refroidir les machines, pour laver, etc. On a besoin d'eau pour produire de l'électricité, que ce soit hydroélectrique ou même nucléaire, charbon, gaz, etc. Il faut aussi refroidir les machines. On voit qu'il y a des centrales qui doivent s'arrêter l'été parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour ou l'eau est trop chaude pour pouvoir vraiment refroidir. Et on a besoin d'eau pour tout, en fait. Et le problème, aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup. On a beaucoup d'usages. On a des usages qui ont évolué. Même pour le numérique, on a besoin d'eau. Et il nous faut toujours plus d'eau. À une époque, la quantité d'eau, elle était largement suffisante pour répondre à nos besoins. Que ce soit nos différents usages, qui étaient plus basiques, on va dire, ou que ce soit la quantité de personnes qui avaient besoin de cette eau. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, premier défi, c'est arriver à gérer en fait la quantité d'eau qui est disponible par rapport à nos usages et au nombre de personnes, sachant qu'il faut avoir conscience que la quantité d'eau disponible directement par l'homme, c'est-à-dire moins de 1% sur Terre, elle n'est pas la même selon la saison. On voit bien qu'en été, globalement, il y a moins d'eau dans les cours d'eau et dans les nappes, parce que 2/3 de l'eau potable en France, c'est les nappes, et 1/3, c'est les cours d'eau, que l'hiver, par exemple. Et nous, nos usages, ils ne sont pas différents, l'été ou l'hiver. Voire l'été, on a besoin d'encore plus d'eau, parce qu'il faut encore plus arroser, parce qu'il y a moins d'eau, etc. Donc, on a un défi aujourd'hui, sur tous nos domaines d'activité, qui est d'avoir une activité qui correspond à la quantité dont on a disponible. Par exemple, sur l'agriculture, peut-être que c'est pas le plus pertinent de planter des choses qui ont besoin d'énormément d'eau l'été, alors qu'on sait qu'on va être dans des régions où il va y avoir moins d'eau. Sur des industries, est-ce qu'il y a des procédés industriels qui vont faire en sorte qu'on ait besoin de moins d'eau, etc. Et même sans changement climatique, on a une problématique, c'est qu'on est beaucoup. Il faut développer des villes, il faut développer des infrastructures, des routes, etc. Il faut aménager le territoire, des voies de chemin de fer, enfin tout ce qui nous sert en fait à construire notre société, entre guillemets. Et on modifie le cycle de l'eau un peu à cause de ça, puisque on en a parlé juste avant. Quand on crée une ville, si on enlève tous les végétaux et qu'on met du béton partout, ça veut dire que sur toute la zone où on aura créé cette ville, l'eau, elle ne va pas aller au réservoir nappe, parce qu'elle ne va pas s'infiltrer dans le sol, c'est-à-dire qu'elle va couler et aller directement dans le cours d'eau. Elle n'est pas perdue, hein, elle ne disparaît pas. C'est juste que par contre, ça va pas, le réservoir nappe va être vachement impacté parce qu'elles ne vont pas se remplir. Et je l'ai mentionné juste avant, 2/3 de notre eau potable vient des nappes. Donc, on a un petit problème, et là c'est même en dehors du changement climatique, qui est, on a beaucoup d'usages qui ont évolué, et on est beaucoup, et on a oublié que la quantité d'eau elle n'était pas illimitée et qu'elle était saisonnière. Et en plus, vu qu'on se développe, on modifie le cycle de l'eau, et il y a des réservoirs qui ne se remplissent plus aussi bien qu'avant, et pourtant c'est des réservoirs dont on a besoin, parce que c'est des réservoirs dont on dépend directement pour notre quantité d'eau. Et tout ça va être renforcé par le changement climatique, parce que le changement climatique, il va mettre une pression en plus sur le cycle de l'eau. En gros, en France, ce qui est prévu, plus ou moins, c'est que sur le pourtour méditerranéen, il y aura moins d'eau, moins de pluie, en gros. On le voit déjà, franchement, la zone autour de Perpignan, par exemple, la recharge des nappes n'a même pas encore commencé cette année, et ça fait plusieurs années qu'ils sont vraiment en problématique de sécheresse extrême. Mais sur le reste de la France, globalement, ce qui se voit, c'est qu'on va avoir plus d'extrêmes. C'est-à-dire que l'eau, au lieu de tomber régulièrement tout au long de l'année, un peu plus au printemps, automne, hiver que été, elle va toute tomber d'un coup, et ensuite, il n'y a plus rien qui va tomber pendant des semaines. Et du coup, encore une fois, c'est qu'en termes d'années, on va avoir la même quantité d'eau, mais c'est qu'elle ne va pas être répartie pareil. Et du coup, si toute notre eau, elle tombe au printemps ou en automne, ou sur certains mois, qu'elle finit dans les rivières puis dans l'océan, elle n'est pas perdue, comme j'ai dit, la quantité d'eau sur Terre, c'est toujours la même. Par contre, nous, derrière, quand on va vouloir l'utiliser, elle ne sera plus dans nos nappes, puisqu'elles ne se sont pas remplies, et on va être bien embêtés. Donc en fait, c'est le changement climatique, ça met une pression supplémentaire sur ce cycle de l'eau, parce que les pluies ne vont plus être pareilles, tout va tomber d'un coup, ce qui peut provoquer des inondations, et ensuite, on va avoir plusieurs semaines, voire mois, où plus rien va tomber, et du coup, là, on va avoir des sécheresses, parce que on a toujours les mêmes usages en face.
Oui, il y avait une information que tu m'avais communiquée et j'avais pas conscience de ça, c'est que en fait les nappes souterraines se rechargent de novembre à mars quand finalement les végétaux sont en dormance et que du coup des pluies qui tomberaient au printemps et en été finalement sont utilisées principalement pour les végétaux. C'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, la recharge des nappes, grosso modo, c'est entre octobre et mars. Sachant qu'il y a différents types de nappes, hein. Il y a des nappes qui sont très proches du sol, donc qui vont se recharger très vite, mais qui vont aussi se décharger très vite. Et il y a des nappes plus profondes où, pour que l'eau atteigne ces nappes un peu plus profondes, il faut qu'il pleuve de façon continue sur des semaines, voire des mois. Et elles se déchargent du coup derrière moins vite également. Elles vont se décharger parce qu'on pompe dedans, par exemple. Et ces nappes, elles se rechargent parce que l'eau s'infiltre dans le sol en profondeur. Et ça demande à ce que l'eau elle puisse atteindre cette profondeur sans obstacle, c'est-à-dire sans plantes qui vont, entre guillemets, utiliser cette eau pour se développer, pour évaporer, etc. Donc c'est vrai que quand il pleut entre mars et octobre, on va dire, c'est pas pour les nappes, ou très peu, sauf celles qui sont vraiment superficielles, et quand il pleut beaucoup, elles peuvent se recharger. Par contre, entre justement octobre et mars, ça va aller profiter aux nappes, et c'est notre stock qui se recharge pour survivre à la saison d'après. Sauf qu'il peut y avoir des années où il ne pleut pas sur cette période, donc nos nappes ne se rechargent pas. Et donc derrière, on va avoir des problèmes de disponibilité en eau parce que c'est là-dedans qu'on va puiser pour nos usages d'été, quoi.
Il y a une notion aussi que à laquelle je m'intéresse dernièrement, et du coup c'est indirectement lié à tout ce qu'on dit, c'est le sol en fait. Ce sol qui permet du coup cette recharge et qui, ces dernières années, j'ai l'impression qu'on l'a un peu maltraité. Il revient un peu sur le devant de la scène et c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 informations dessus en quoi ce sol est important pour la gestion de l'eau?
Pour moi, le sol, c'est central. C'est le réservoir central pour nous, humains, on va dire. Quand on a un sol, déjà, le sol, c'est un stock d'eau, déjà. Donc, quand on a un sol qui peut stocker l'eau, sans parler des nappes, hein, on a moins besoin de l'arroser. Donc, si on fait pousser des choses dessus, si l'agriculture l'utilise, l'agriculture, c'est très important, hein, c'est ce qui permet de nous nourrir, quand même. Et derrière, un sol en bonne santé et qui est capable de retenir de l'eau, c'est un sol qu'il va falloir moins arroser l'été ou quand il y a moins d'eau. Bonne santé, ça veut dire quoi? Ça veut pas juste dire qu'il pleut dessus, hein, mais ça veut dire que le sol, il doit être en capacité d'absorber l'eau. Donc il y a différents types de sols, par exemple le sable, ça va pas absorber. L'argile, ça va absorber et retenir, etc. Donc il faut faire avec son type de sol. Mais un sol qui est capable d'absorber et retenir de l'eau, c'est un sol qui est un peu vivant. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, entre guillemets, mais où il y a des galeries, où l'eau va pouvoir s'infiltrer au travers de toutes ces galeries et ces fissures pour aller un peu plus profond, etc. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des galeries dans le sol? C'est parce qu'il y a des plantes, hein. Les plantes, ce n'est pas négatif pour le sol, loin de là, hein. Ça permet justement d'avoir des racines, d'avoir un réseau, etc., de maintenir un sol en bonne santé, d'apporter des choses au sol, mais aussi des bébêtes, hein. Des bébêtes qui vont faire le travail, les vers de terre. N'écrasez surtout pas vos vers de terre, il faut des vers de terre dans le sol pour que ce sol puisse retenir l'eau. Donc un sol de bonne qualité, c'est d'une part un sol qui va nous permettre de nous nourrir sans avoir besoin d'arroser H24, et donc on va diminuer notre besoin en eau pour ce sol, mais c'est aussi un sol qui va permettre d'infiltrer pour que l'eau derrière, elle aille dans nos nappes, et comme je disais encore, hein, 2/3 de notre eau vient des nappes. Les nappes, c'est hyper important. Après, on a des problématiques géologiques, hein. Si les nappes sont toutes vides, si la structure du sol est différente, etc., ça peut aussi mettre en péril les constructions dessus, les habitations. On voit avec les sécheresses, les sols sont trop secs, du coup, il y a des fissures sur les maisons. Alors, c'est certains types de sols, hein, c'est les sols argileux. Alors, l'eau, c'est très important, mais le sol, c'est quand même ce qu'il y a sous nos pieds, ce qui nous permet de vivre aussi. Donc, pour moi, c'est une thématique aussi importante à préserver.
J'avais vu un chiffre qui m'avait assez bluffée, qui disait que donc, le taux de matière organique dans le sol qui contribue à ce qu'un sol soit vivant se situe entre 0 et 4-6 %. Et ce chiffre disait que chaque 1 % de matière organique supplémentaire dans 15 cm de sol par hectare, c'est 250 mètres cubes d'eau en plus stockée, donc 250 000 litres d'eau stockée en plus. Donc on voit bien cette capacité d'éponge qui augmente avec le vivant du sol, et c'est assez intéressant d'avoir ça en tête. Il y avait une autre notion technique que je souhaitais vulgariser avec toi, qui me semble importante à comprendre, c'est la différence entre prélèvement d'eau et consommation en eau. Est-ce que tu peux nous expliquer, et aussi pour qu'on comprenne la spécificité française liée à notre parc nucléaire peut-être?
Oui, c'est vrai que c'est une spécificité assez française. Alors le prélèvement d'eau, c'est le fait de prendre de l'eau dans les rivières ou les nappes, de l'utiliser, et derrière de la remettre à peu près au même endroit. On va dire à peu près, hein, on n'est pas au kilomètre près, mais dans la même zone. La consommation, c'est quoi? C'est qu'en gros, on a prélevé de l'eau à un endroit, on l'a utilisée, et cette eau ne reviendra pas à cet endroit de prélèvement, pour x ou y raison. Par exemple, on va reprendre l'exemple de la centrale thermique, c'est un exemple qui se comprend bien. Souvent, les centrales thermiques, elles sont à côté des rivières ou de l'océan, hein, parce que toutes les centrales sur la côte ouest, elles prennent de l'eau de l'océan et pas des rivières. Donc en fait, l'eau est détournée dans un canal, par exemple, ou avec des tuyaux. Une certaine quantité d'eau est utilisée pour refroidir les machines, les réacteurs, etc. Lors du refroidissement, il y en a une partie qui s'évapore. C'est ce que vous voyez sur les grandes tours de refroidissement, les nuages blancs, c'est de la vapeur d'eau en fait. Cette partie qui s'évapore, on comprend bien qu'elle ne va pas retourner à la rivière où on a prélevé, puisqu'elle est partie dans l'atmosphère, donc elle n'est pas perdue, elle revient dans le cycle de l'eau, par contre elle a été enlevée au milieu de prélèvement d'origine. Et ensuite, pas tout s'évapore, loin de là, hein. On est à peu près à moins de 10%, alors ça dépend des études, hein. Mais on est à moins de 7% à peu près de l'eau qui est prélevée qui s'évapore. Et donc du coup, les 93% plus restants, bah, ils vont retourner dans la rivière. Donc il y a d'autres problématiques, hein. Ils vont retourner plus chaud, il y a des problèmes de qualité, etc. Mais ça veut dire que par exemple, pour les centrales thermiques, sur toute l'eau qu'on prélève, il y en a peut-être 7% qui part en évaporation et 93% qui retourne dans la rivière, donc dans le milieu de prélèvement. Donc 7% de consommation d'eau. Par exemple, toute l'eau qui est à la maison, donc ce que vous tirez au robinet, c'est de l'eau généralement qui n'est pas consommée, qui est prélevée, qui retourne au milieu naturel. Pourquoi ? Parce que généralement, on prélève, par exemple à Lyon, ça va prélever en amont de la ville de Lyon, dans les grandes nappes de la Saône, etc. On va utiliser l'eau, et ensuite, l'eau, elle va être traitée. Le traitement n'empêche pas la restitution au milieu naturel. Hein. Et elle va être remise dans le Rhône, ou des rivières connexes, quelques kilomètres plus loin. Donc ça veut dire que techniquement, l'eau qui était censée retourner au Rhône, elle retourne en effet au Rhône, c'est juste qu'elle a été déviée, utilisée, traitée et remise. Donc généralement, l'eau qu'on tire du robinet, elle est remise au milieu naturel, sauf si on l'utilise dans le jardin. Et c'est aussi le cas de l'agriculture, c'est-à-dire que l'eau qu'on prend dans les rivières ou dans les nappes pour arroser un jardin ou pour arroser un champ, etc., en fait, elle ne revient pas dans la rivière ou la nappe, pas forcément, hein. J'ai dit qu'une goutte d'eau pouvait mettre des années à revenir dans une nappe. Elle va dans le sol, et une fois qu'elle est dans ce sol, soit elle va s'évaporer, il y a une partie qui va s'évaporer avec les plantes, avec la chaleur, etc., soit elle s'infiltre, et là, on n'a plus la main dessus, en fait. Une fois qu'elle a commencé à s'infiltrer, on ne sait pas du tout si elle va aller dans une nappe, si elle va rester dans le sol un moment, si elle va revenir dans la rivière, etc. Ce qui fait que, on va dire que sur un laps de temps court, elle n'est pas redisponible dans la rivière d'origine où on a prélevé. Donc c'est la différence entre prélèvement et consommation. Et en France, le refroidissement des centrales thermiques, c'est 61% des prélèvements, donc c'est beaucoup. Là où par exemple l'agriculture, c'est à peine 11% des prélèvements, donc pas beaucoup. Et c'est notamment l'été, là où on en a moins. Là où la consommation, c'est-à-dire que l'eau qu'on a prélevée mais qui ne retourne pas au milieu de prélèvement, 58% de l'eau consommée en France vient de l'agriculture, par exemple. Toute l'eau qui ne retourne pas au milieu d'origine, c'est toute l'eau qui a été utilisée notamment pour irriguer, pour l'agriculture, etc. Et ensuite, les centrales thermiques, c'est 12%. Donc c'est la petite partie qui s'est évaporée, mais du coup, on prélève beaucoup pour les centrales thermiques. Par contre, en termes de consommation, on va dire qu'en termes de quantité d'eau, ça retourne en grande partie dans les rivières. Donc c'est la différence entre les deux qu'il faut avoir en tête, parce que c'est ce qui va directement impacter notre quantité d'eau disponible à un moment de l'année.
Ouais, c'est super intéressant parce que je t'avais partagé le fait qu'avec mon conjoint, on pensait tout plaquer et créer une entreprise pour faire de la phytoépuration, enfin traiter les eaux usées par phytoépuration. Donc on se disait, bah, en fait, vu qu'on utilise 150 litres par jour par humain en France, et ben, autant réintégrer cette eau à la parcelle, comme ça, ça recharge les nappes. Et tu m'avais du coup expliqué que c'était pas forcément une bonne idée parce que ça allait déstabiliser, déséquilibrer les milieux dont on puise l'eau à l'origine et dont l'eau ne retourne pas au milieu après utilisation. Donc faut qu'on change nos plans du coup.
Mais du coup, juste pour compléter, on parle beaucoup l'été d'une solution qui est le reuse, c'est la réutilisation des eaux usées. Typiquement, c'est quoi ? C'est les eaux qui sont usées et traitées par les stations d'épuration, au lieu de les remettre dans la rivière, on pourrait les réutiliser pour les mettre dans les champs. Et du coup, ça c'est une bonne solution, mais que dans certaines zones. Dans les zones littorales par exemple, on prélève dans les rivières. Actuellement, on les traite et ensuite on rejette dans l'océan. Ça, c'est de l'eau consommée en fait. Ça ne retourne pas à la rivière, ça retourne à l'océan et pas dans la rivière de base.
Et ça, ce serait OK.
Ça, ce serait OK. Parce que le reuse, c'est quoi ? C'est que en fait, l'eau, on l'a enlevée de la rivière et on la remet dans l'océan. Donc on change de stock d'eau, donc on la consomme entre guillemets. Et là, on peut se dire, non, au lieu de la remettre dans l'océan, je vais la réutiliser pour l'épandre dans un champ, etc. Par contre, là, t'es à Lyon, admettons que tu prélèves ton eau dans le Rhône, elle est traitée par une station d'épuration locale, la station d'épuration locale, elle va la remettre dans le Rhône. Donc si tu l'enlèves pour la mettre dans un champ, entre guillemets, à la base, elle devait être dans le Rhône, tu modifies un peu l'équilibre. Donc par exemple, ça, c'est une bonne solution, notamment pour les zones littorales où on prend de l'eau dans les rivières et on les rejette dans l'océan au lieu de les remettre dans la rivière. Et après, à la maison, l'eau de pluie, par exemple, l'eau de pluie, à la base, c'est censé être à la place de ta maison, puisque c'est l'eau que tu récoltes de tes toits, donc dans ton jardin, on va dire. Là, il y a une maison, donc elle ne peut pas s'infiltrer. Donc le fait de récupérer l'eau de pluie pour la remettre dans un jardin ou dans un sol, c'est bénéfique, parce que c'est là où elle devait aller à la base, plutôt que de l'emmener, par exemple, directement à la rivière.
Puis ça évite de la faire traiter par les usines, etc. J'avais vu... alors là, on switch un peu sur les solutions, mais c'est pas grave. J'avais vu aussi sur un des articles de Odyssée que tu parlais d'un projet en Vendée de construction d'une unité d'affinage des eaux usées. Alors, l'objectif de ces usines, c'est de traiter les eaux usées pour les rendre potables. Et ça semblait être une bonne idée. Je veux bien ta confirmation, parce que du coup, là, on est vraiment en cycle fermé. Alors, on puise au début, mais après, on s'auto-alimente. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que j'ai mal compris ?
En fait, je pense que ça dépend du volume. Tout est une question d'équilibre sur du volume. Même le fait de faire du reuse hors zone littorale, on peut en faire un peu. Enfin, c'est toujours dans la balance avantage-inconvénient. C'est-à-dire que si tu prends des millions de mètres cubes d'eau, entre guillemets, en cycle fermé, ils vont peut-être manquer. Si tu en prends un petit peu, entre guillemets, et qu'après tu réintègres des prélèvements ponctuels, etc., et que tu fonctionnes en cycle fermé avec ça, techniquement, tu as pris cette quantité d'eau que tu ne remettras jamais, mais le cycle peut se rééquilibrer un peu derrière, mais pas si tu en prends non plus des millions de mètres cubes. Donc je pense que comme dans toutes les solutions, c'est vraiment une balance entre la quantité, comme la désalinisation, toutes les solutions, elles sont plus ou moins valables selon le contexte local et selon la quantité qui est mise en jeu avec le contexte local.
En ayant bien en tête les avantages, les inconvénients et que c'est adapté à un contexte local, comme tu dis. Passionnant. J'avais un dernier aspect technique que je voulais voir avec toi qui m'a fait halluciner. J'en avais pas conscience, donc je pense que peut-être qu'on est nombreux à pas en avoir conscience. C'est la notion d'empreinte eau. Peux-tu nous expliquer ce que c'est ?
Oui, l'empreinte eau, c'est un peu différent. L'empreinte eau, c'est un truc qui a été créé, qui est la quantité d'eau qu'il faut pour produire un bien ou un service de A à Z. Donc, on prend l'exemple du t-shirt que maintenant... On se pose pas trop la question, un peu comme l'eau, d'où ça vient et comment ça a été fait. Mais un t-shirt, c'est quoi ? Admettons, on a un t-shirt 100% coton. Le coton, c'est quoi ? C'est une plante et ça pousse. Pour que le coton y pousse, il faut donc de l'eau. Donc en fait, par exemple, l'empreinte eau du t-shirt, ça va être toute la quantité d'eau qu'il a fallu pour faire pousser le coton, qu'il a fallu récolter pour fabriquer le t-shirt derrière, mais également l'eau qu'il a fallu pour produire de l'électricité pour l'usine de tissage, l'eau qu'il a fallu pour produire l'emballage plastique qui va emballer ton t-shirt, l'eau qu'il a fallu pour produire de l'essence, pour aller transporter ton t-shirt sur un bateau cargo ou je ne sais quoi, entre le lieu de fabrication, l'usine, le lieu de vente, etc. Bref, c'est un chiffre qui est très complexe, hein, ça passe par des analyses du cycle de vie des objets, pour essayer de voir, au final, un t-shirt, c'est 2500 litres d'eau. Alors souvent, c'est pas de l'eau locale, entre guillemets, dans le sens où le t-shirt, si on l'achète pas un t-shirt qui est fabriqué, alors même pas que fabriqué, hein, dont le coton a poussé en France, ça veut dire que c'est 2500 litres d'eau qui ont été pris ailleurs, en Inde, en Chine, au Bangladesh, n'importe où, etc. Donc l'empreinte eau, c'est intéressant, parce que ça nous permet de mettre un chiffre derrière notre consommation du quotidien. J'ai dit 150 litres d'eau par jour et par personne eau du robinet. En France, on est à 4900 litres par jour et par personne sur l'empreinte eau. C'est énorme.
J'avais halluciné.
On peut arrondir à 5000. Donc c'est énorme. C'est quoi ? C'est notamment notre alimentation. Parce que l'empreinte eau des aliments peut être très importante, notamment de certains types de viande, par exemple. Mais également du numérique, des habits, tout quoi. Donc c'est très très haut. Il faut savoir que si la France devait produire... La France a une dette eau de 1,5. C'est-à-dire que toute l'eau qu'il y a sur le territoire en France, elle ne suffirait pas. Il faudrait 1,5 fois toute l'eau du territoire pour pouvoir produire tous les objets qu'on utilise à 5000 litres d'eau par jour par personne, ou les aliments.
En ne prenant pas en compte les besoins des écosystèmes aussi. C'est juste pour notre besoin, c'est ça?
Juste pour produire.
Pour produire,
c'est-à-dire que si derrière on veut l'électricité pour allumer nos maisons, c'est pas là-dedans.
Ah oui.
Donc c'est assez énorme. Donc c'est de l'eau souvent qui est empruntée, entre guillemets. Et attention, il ne faut pas se dire « Ah ouais, 5000 litres d'eau d'empreinte eau, par jour, hein, et par personne, c'est énorme, du coup, je vais faire vachement d'efforts là-dessus et je m'en fiche de l'eau de ma douche qui représente 70 litres par jour, j'en sais rien. » Non, parce que c'est de l'eau locale. Du coup, quand on fait des efforts sur l'eau à la maison, que ce soit au jardin, dans la douche, dans les WC, etc., on préserve les nappes qui sont autour de nous et dont on a besoin pour nos usages locaux. Et quand on fait des efforts sur toute notre consommation, que ce soit l'alimentation ou que ce soit l'habillement, etc., etc., c'est plutôt un effort en termes de gestion de l'eau mondiale, entre guillemets, et répartition de l'eau mondiale. Et bonus, généralement, ça a des bons impacts aussi sur les gaz à effet de serre. C'est bien.
Ouais, c'était important pour moi de le dire parce qu'en fait, moi j'ai eu ce réflexe dont tu parles en me disant le jour où j'ai découvert l'empreinte eau de 5000 litres par jour, pour ma petite personne, je me suis dit c'est bon, je peux m'autoriser des douches plus longues, c'est important pour moi, c'est pas très grave, et puis je vais arrêter quelques aliments, en tout cas les diminuer. Et en fait, ce que tu m'as fait prendre conscience, c'est que faire les petits gestes du quotidien, ça protège notre ressource locale et notre environnement et là où on vit, et que agir sur notre empreinte eau, c'est protéger l'eau à une échelle plus grande, mais les deux sont importantes. J'avais vu aussi un chiffre qui était intéressant, c'est que sur cette empreinte eau du coup de 4500 litres par jour et par habitant en France, 50% de l'eau est impactée sur de l'eau qui est sur notre territoire, dû à notre production, et que 50% c'est de l'eau internationale. Et c'est pas le cas pour tous les pays, des pays où il y a plus d'importations, ils impactent plus l'eau à l'international. Nous c'est 50-50, c'est intéressant, je trouvais ça intéressant d'avoir ça en tête.
Ouais, notamment par l'agriculture, notre alimentation, on a la chance entre guillemets en France d'avoir encore, et il faut le préserver, une alimentation qui peut être locale.
Ouais, c'est vrai que c'est une grande chance. Maintenant que les bases, les notions sont sont bien posées, moi mon dada c'est d'agir à mon échelle et d'encourager le plus de personnes à le faire aussi. Est-ce que tu aurais du coup des conseils, des solutions pour, des conseils pour protéger cette ressource en eau?
Alors, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, nous, on catégorise un peu, c'est un choix personnel, hein, mais entre action individuelle et action collective, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas régler les problèmes, entre guillemets, de l'eau si on fait que des actions individuelles, et pareil pour les actions purement collectives. Pour ceux que ça intéresse, sur le site d'Odyssée, on a créé deux infographies qui essaient de résumer ça. Et elles sont téléchargeables et utilisables gratuitement. Vous pouvez les retrouver.
Et elles sont vraiment top.
Merci. Si je commence par les mesures individuelles, et ben il y a les deux thématiques dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a l'eau à la maison, donc les 150 litres par jour et par personne. Il faut savoir que l'eau à la maison, c'est 60% dans la douche et 40% dans les toilettes, en gros. Alors c'est des moyennes, c'est-à-dire que les gens qui ont un immense jardin, c'est peut-être pas ça. Mais les gens qui n'ont pas de jardin, c'est plutôt ça. Donc, eh ben oui, on peut agir justement, notamment sur les douches, éviter les bains, prendre des douches plus courtes, etc. Vous pouvez aussi, par exemple, bon, un truc con, hein, mais quand on fait chauffer l'eau de sa douche, on peut en récupérer un peu. Derrière, on peut aller arroser nos plantes, etc. Voilà, ça peut être aussi une solution si on a envie de prendre des douches un peu plus longues. Il y a des outils qui existent maintenant, des sortes de pommeaux de douche qui vont vous indiquer justement le temps, qui vont, voilà, si jamais ça peut mettre des petites barrières. Les toilettes, les chasses d'eau. Alors, pas tout le monde a les moyens de mettre des toilettes sèches, ou ni l'envie. Donc, les toilettes, on peut avoir des petites astuces, mettre des doubles chasses, des chasses plus économes, mettre des... Pour ceux qui sont locataires, par exemple, mettre des bouteilles d'eau dans le réservoir, parce que souvent, il y a des réservoirs qui sont un peu vieux et on n'a pas besoin de 5 à 9 litres d'eau pour chasser ce qu'on veut chasser. Donc, il suffit de mettre des bouteilles d'eau pleines dans le réservoir pour que le réservoir se remplisse un peu moins. Voilà, il y a plein de petits trucs et astuces. Alors, c'est des petits gestes, hein. Mais si tout le monde fait ces petits gestes, ça fait quand même des millions de mètres cubes d'économiser, hein, in fine. Sur le jardin, évidemment, c'est une grosse thématique. En fait, tout ce qui est applicable un peu à l'agriculture, on peut l'appliquer au jardin. Mais la réutilisation des eaux de pluie, c'est bien si on est en capacité de le faire. Entretenir son sol pour avoir un sol qu'on a besoin de moins arroser, c'est bien. Évidemment, planter des choses adaptées au climat et à la saison. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien aussi. Ne pas hésiter, souvent, dans les communes, il y a des guides, justement, paysagers sur qu'est-ce qui va être planté dans la commune, etc. Et souvent, ils font en sorte de prendre des espèces qui sont adaptées. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre commune aussi, de votre collectivité, pour savoir quelles sont leurs stratégies paysagères. Et du coup, vous rapprocher des espèces qui sont les plus adaptées. Et on n'en parle pas beaucoup, mais la qualité de l'eau qui est très importante... Parce que avoir de l'eau, mais de très mauvaise qualité, ça ne nous arrange pas non plus. Et ça veut dire... Alors, arrêtez de jeter vos mégots par terre, s'il vous plaît. Un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. Et même dans le caniveau, hein, c'est-à-dire que... Ou dans la rue, parce qu'en fait, à partir du moment où un mégot est par terre, il va finir dans une canalisation, puis dans l'océan. Et c'est très maltraité par les stations d'épuration, donc il ne faut pas jeter-les dans les poubelles. Et après, sur tout ce qui est, par exemple, vaut mieux laver sa voiture en station de lavage parce que, de départ, ils ont des circuits fermés qui utilisent moins d'eau. Et d'autre part, généralement, tous les hydrocarbures qu'il y a sur votre voiture, ça évite qu'ils finissent dans le sol. Utiliser des produits ménagers vertueux. Et aussi, faites la chasse aux fuites chez vous. On ne se rend pas compte, mais une petite goutte d'eau qui coule de temps en temps, etc. Ça fait des grosses quantités d'eau perdues au final. Et après, sur l'eau virtuelle, donc l'empreinte eau, donc c'est 4900 litres par jour et par personne. Il y a le Water Footprint Network qui a justement une galerie de produits où on peut voir un peu les quantités d'eau. Elles sont rappelées un peu sur l'infographie. Le chocolat. Le chocolat, c'est une empreinte eau assez forte, hein, 18 000 litres par kilo. Bon, après, manger un kilo de chocolat, faut aller manger le kilo de chocolat. Mais c'est assez fort. Les amandes, ça a une empreinte eau assez forte aussi. La viande de bœuf, parmi toutes les viandes, c'est ce qui a l'empreinte eau la plus forte. On est à 15 000 litres par kilo. Potentiellement, c'est un peu plus simple de manger un kilo de viande de bœuf que de chocolat. Ça dépend des gens, mais... Ensuite, le porc est à 6 000 et le poulet est à 4 000. Donc voilà, on voit que ça diminue vite avec les autres types de viande. Mais on a une empreinte eau assez importante sur le textile. Le coton, ça a une très très forte empreinte eau. On peut privilégier le lin, par exemple, ou la seconde main, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de vêtements qui sont déjà de très bon état et qui sont en seconde main. Mais également les produits numériques, l'énergie. Hein, il faut de l'eau pour avoir l'électricité, on en a parlé. Donc si on est vertueux en énergie, c'est bien pour la facture et pour l'eau. Les transports, puisque ça pollue l'eau derrière et on a besoin aussi, besoin d'eau pour transporter tous nos produits. Donc voilà un peu sur les gestes individuels. Qu'on peut faire. Et après, sur les gestes collectifs, il y a beaucoup de choses qui sont connues mais qu'il faut mettre en place et c'est pas le plus simple. On a parlé un petit peu des usages de l'eau et chaque usage de l'eau peut s'adapter. Sur l'agriculture, on a parlé de l'importance des sols. N'hésitez pas, si vous allez voir l'infographie sur le site, on a essayé de développer un peu cette thématique sur l'importance du sol. Et notamment, il y a une revue de l'INRAE qui s'appelle Ressources, qui a fait des dossiers là-dessus et qui sont accessibles en ligne, qui sont très intéressantes. Mais du coup, l'adaptation, ça va être justement de préserver les sols, ça va être de limiter les fuites et d'irriguer en goutte à goutte aussi, c'est valable pour le jardin, hein, plutôt que par aspersion par exemple. Arroser plutôt quand on peut le soir, voire le matin très tôt, parce que si on arrose en pleine journée, ça s'évapore et ça n'a pas le temps d'être absorbé. En agriculture, il y a aussi le fait de remettre des haies, des forêts, etc. Parce que c'est des choses qui retiennent beaucoup l'eau et qui évitent le ruissellement. Des fossés, voilà, il y a des pratiques maintenant où en fait, par exemple, quand on a de l'agriculture en pente, on peut créer un fossé en bas qui va récupérer toute l'eau qui coule, la faire remonter en haut jusqu'à ce qu'elle puisse vraiment s'infiltrer jusqu'au bout, par exemple. Des cultures moins consommatrices en eau, du local, etc. Sur la gestion du territoire, il y a également énormément de choses, notamment pour les crues et les sécheresses. Revégétaliser les villes, c'est important, hein, parce que en plus d'apporter de l'ombre et de la fraîcheur, ça va permettre à l'eau de s'infiltrer.
On parle maintenant même de ville éponge pour ce genre de...
On n'y est pas encore, hein, ouais.
C'est un beau mot, en tout cas.
C'est un beau mot, j'espère qu'on y arrivera un jour, mais c'est très très important. Sur aménager les cours d'eau, ça c'est important notamment pour tout ce qui est événements extrêmes, parce qu'un cours d'eau qui est tout droit dans un canal béton, ça va provoquer potentiellement plus de dégâts qu'un cours d'eau où il y a des lones, des bancs de sable, etc. En plus d'être super pour la biodiversité, hein, 2 en 1.
Donc ça, c'est plutôt des collectivités qui s'emparent de ces sujets, mais aussi nous, citoyens, on peut peut-être, si on a la connaissance, on peut peut-être faire un peu bouger les lignes.
Oui, c'est vrai que les collectivités, elles ont alors plus ou moins des moyens, mais je veux dire, s'il y a une pression ou s'il y a une volonté aussi des habitants de la commune d'aller vers là, je pense que c'est d'autant plus important pour la collectivité de le prendre en main, hein, parce que les collectivités, ce qui les intéresse aussi, en plus de bien gérer le territoire, c'est d'être élu, entre guillemets. Donc si c'est vraiment une volonté des habitants, faut pas hésiter justement à aller s'intéresser à ces sujets. Allez vous renseigner auprès de vos mairies et structures locales sur les actions qui vont être mises en place, etc. Avant la catastrophe, on le voit avec les crues actuellement, les inondations qu'il y a par exemple dans le Pas-de-Calais. Alors oui, elles sont accentuées par plein de choses. C'est pas forcément tous les ans, même si ça va arriver de plus en plus. Mais on peut mettre des choses en place, mais ça prend du temps. Voilà, ce type d'action, que ce soit revégétaliser les villes, renaturer les cours d'eau, etc., c'est pas des choses qu'on fait en un an, quoi. Et c'est des choses qu'il faut bien faire, parce que si on plante la mauvaise espèce d'arbre qui meurt au bout de 2 ans, c'est pas l'intérêt non plus, en fait. Donc c'est vraiment des sujets de stratégie du territoire et d'urbanisme qui traversent les mandats, entre guillemets, politiques, et qui doivent être portés aussi par des volontés et des prises de conscience individuelles sur, c'est important pour le futur et pour nos villes, donc on va aller porter ça et sentir que ça va devoir être intégré à toutes les gestions politiques, quel que soit le parti ou autre, quoi.
Trop bien. On s'approche de la fin du podcast. Est-ce que toi, en tant qu'experte sur ces thématiques-là, tu remarques du positif, une évolution positive ? Est-ce que tu restes optimiste pour l'avenir ? Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus ?
Moi, quand j'ai commencé ma thèse, il y a 10 ans, personne ne parlait de sécheresse. Aujourd'hui, on en parle plus parce qu'on en vit beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui est arrivée. C'est bien qu'elle arrive. Comme souvent, elle est arrivée parce qu'on a été mis face au problème, hein, même si on savait déjà qu'on allait avoir le problème. Ça, c'est bien, parce que je pense que cette prise de conscience, maintenant, elle est un peu plus généralisée. C'est des choses où, il y a 10 ans, même en tant qu'individu, on se prenait moins la tête sur l'eau, entre guillemets, on se posait moins de questions. Je dis pas que tout le monde se la pose, mais je dis qu'on en parle plus. Et ça arrive plus dans les préoccupations locales. Donc ça, c'est bien, il faut que ça continue. Pour moi, les solutions sur l'eau, elles sont presque toutes connues. Alors, il peut y avoir des erreurs. Il y a, comme je disais au début, hein, il faut des adaptations locales, etc. Mais il y a beaucoup d'experts et de gens qui travaillent dans ce domaine. Et on peut faire des choses assez facilement. Alors facilement, c'est entre guillemets, hein, parce qu'il y a plein d'autres sujets. Et après, à un moment donné, il faut bien arbitrer les budgets. Mais il y a moyen de mettre en place des choses. Et c'est bien parce que la plupart de ces moyens, on les connaît. Donc après, c'est une réelle volonté, entre guillemets. Des fois, on a l'impression qu'on fait des gestes qui vont dire « oui, ça m'embête, c'est une habitude à prendre, ça va changer ma vie, etc. » Mais on se rend compte qu'une fois qu'on a mis le geste de la bonne manière et que petit à petit, on s'habitue, c'est pas plus compliqué, ça intègre nos habitudes. Donc c'est sûr que le changement, ça demande une petite période d'adaptation qui n'est pas forcément simple. Mais vous n'êtes pas obligé de tout changer du jour au lendemain, vous pouvez intégrer les choses petit à petit. Via l'association, ça me donne de l'optimisme parce que justement, je suis amenée à rencontrer des gens qui se posent des questions qui ne se posaient pas il y a 10 ans, etc. Donc j'ai pas du tout de statistiques sur le nombre de personnes qui s'en posent, mais au moins ça permet de voir que c'est quand même un sujet qui commence à être mieux pris en main maintenant, quoi.
Comme geste, on parlait des gestes juste avant, on peut faire aussi la fresque de l'eau pour se rendre compte, bien positionner les ordres de grandeur. C'est un outil qui est assez puissant pour ça. Dernière question du podcast. Le podcast s'appelle Les Vivantologues. Qu'est-ce qui te rend vivante ?
Tu ne me l'avais pas posé celle-là, la préparation.
Petite surprise. La surprise du chef.
Moi, j'aime bien mon jardin. Non, mais c'est un truc bête, mais... Je trouve que maintenant, quand on vit dans les villes, entre guillemets, et c'est aussi pour ça que je m'en suis un peu écartée, on n'a plus du tout cette connexion à la nature. Alors, j'aime bien mon jardin, après j'aime bien mon confort intérieur aussi. Hein. Donc, il y a nature et nature, mais juste aller dehors, se promener des fois dans une forêt, d'aller sentir le vent, ou même quand il pleut, des fois c'est cool quoi, de sentir la pluie, enfin, de se reconnecter un peu à ça... Je trouve qu'on ne voit pas les choses de la même manière et je pense que c'est ce qui me permet de me rendre vivante un peu plus.
Merci beaucoup. Comment on retrouve ton travail, tes actualités ou les actualités de l'association ?
Sur le site de l'association, donc www.odyssée.org, c'est EAUDY2S2E. Puis on est sur les réseaux Facebook, LinkedIn, Instagram, donc on essaie de maintenir un peu ça. On diffuse des ateliers, n'importe quelle personne peut faire ses ateliers, puis derrière devenir animateur s'il le souhaite. On est une association bénévole, le siège social est à Lyon, mais on n'a pas de locaux en fait. Et vu qu'on s'est quand même développé pas mal pendant la période du Covid, on est plutôt en distanciel. Donc en fait, même on développe des ateliers et tout, nos groupes de travail sont souvent avec des animateurs d'un peu partout. Donc on peut vraiment être animateur partout, on en a même à l'étranger. Hein. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On reste relativement dispo selon notre capacité à répondre à tous les mails et les messages. Puis c'est majoritairement par là qu'on peut retrouver nos actions.
Merci Laurie.
Merci Chloé.
Merci pour votre écoute, je serai heureuse de savoir avec quoi vous repartez de cet échange avec mon invité. Qu'est-ce qui vous a parlé en particulier ? Pour cela, vous pouvez le partager sur la page Instagram podcast-du-bas les vivantologues. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser un avis sur les plateformes de diffusion ou le partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre aide et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations autour de la notion du vivant.